Histoire de voix, une série des médias francophones publics, présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.
Si la voix est le reflet de l'âme, c'est sans doute parce qu'elle est empreinte des joies et des peines de l'enfance. Très tôt, les chagrins, les blessures, les trahisons se déposent, sans cri, sur la voix des enfants. Souvent mieux que la parole, la voix chantée permet de libérer et de sublimer ses émotions.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tente dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvrée, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine.
La chanteuse Dalida n'a pas encore 2 ans lorsqu'on doit l'opérer pour une infection aux yeux. Le traitement tourne mal et provoque chez elle un important strabisme. Durant toute son enfance, la petite Yolanda Gigliotti subit les moqueries de ses camarades de classe. Cette blessure indélébile la hantera pour le reste de ses jours. En 1979, au micro de Jacques Chancel, sur France Inter.
Dalida, on me dit, et vous l'avez confirmé à différentes reprises, que toute jeune, vous vous trouviez laide.
Oui, je me trouvais laide d'ailleurs. J'ai eu une enfance pas agréable du tout. Je n'aimerais absolument pas revivre mon enfance. Je ne la renie pas parce qu'elle est là, bien sûr. Elle m'a appris par la suite beaucoup de choses. Mais je n'aimerais pas revivre mon enfance et je me trouvais laide. Puis j'étais malade, j'étais très nerveuse et...
Quelles sont vos
origines? Je ne m'aimais pas du tout.
Quelles sont vos origines exactes?
Mes origines...
Vous êtes née au Caire, mais vous êtes sicilienne, italienne?
Je suis née au Caire de parents italiens, exactement calabrais, et actuellement je suis de nationalité française.
Dalida, que faisaient vos parents?
Mon père, il était violoniste, et ma mère était simplement la femme de mon père. Elle s'occupait de la maison et de ses enfants.
Lorsque vous dites, comme tout à l'heure, que vous ne voudriez pas revivre votre jeunesse, c'est parce que cette jeunesse vous a frappé, qu'elle vous a trop armé?
Je n'aimerais pas, oui, revivre mon enfance parce que j'étais, comme je disais tout à l'heure, très malade, très nerveuse. Puis j'avais un père qu'il avait certainement ses raisons de l'être, mais il était très coléreux et très nerveux aussi. Il criait tout le temps. Alors j'étais divisée entre mon père et ma mère, c'est-à-dire que mon père, je ne pouvais absolument pas le voir. Je haïssais mon père et j'avais une adoration pour ma mère. Mais c'était beaucoup trop, parce que tout ce qui est trop n'est pas tellement bien, même dans le bien. J'adorais ma mère, c'était extraordinaire.
On peut haïr son père à ce point-là?
Quand on est enfant, certainement. Maintenant, absolument pas. Je ne le haïs pas du tout. D'ailleurs, j'ai perdu mon père quand j'avais l'âge de 12 ans. Et c'était à ce moment-là que j'ai commencé à l'aimer, à le comprendre, et je l'ai perdu.
C'était trop tard?
C'était trop tard, c'est-à-dire... Pour moi, pour aimer mon père, c'était trop tard de toute façon parce qu'il avait imprimé en moi, étant enfant, un tas de choses qui se sont répercutées par la suite parce que je crois que l'enfance est très importante dans la vie d'un être. Mais pour le moment, ça va, j'aime mon père, je le comprends.
Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Mais mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs,
bambino, bambino,
tu as l'air d'un chérubin.
Bambino, bambino,
va plutôt jouer au ballon,
bambino, bambino,
comme font tous les gamins.
C'est un trou plein d'émotions adolescentes qui a permis à la chanteuse Zao de Sagazan de trouver sa voix chantée.
Je commence à chanter, je pense, vers mes 13 ans. Au départ, j'ai chanté longtemps avec ma grande sœur pour l'imiter. Je chantais avec elle, on a toujours aimé faire du bruit, de toute façon, s'exprimer. Donc le chant est arrivé assez naturellement. Mais quand j'ai vraiment commencé à chanter vraiment pour moi, pour le plaisir, et que j'ai pris conscience que c'était un instrument et qu'il fallait le travailler, c'était vers mes 13 ans. Je découvre le piano. À ce moment-là, je suis très fan de Tom Odell et je fais que pleurer tout le temps parce que je suis très sensible. Et je n'en peux plus pleurer, je ne sais pas comment faire. Et tout d'un coup, je vois Tom Odell qui pleure à son piano. Ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il pleure lui aussi, qu'il semble très sensible, mais qu'il le fait à un endroit différent que moi. Là où moi, je le fais dans mon lit ou dans les bras de ma maman ou je ne sais où. Je me dis, bah, lui, il le fait au piano. Donc dès que je pose mes mains sur le piano, ce n'est pas pour faire du piano, c'est, je sais que c'est dans le but de chanter, de m'accompagner. Dès le lendemain, j'y retourne, je passe 6 heures par jour et voilà, ça devient très, 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 très rapidement une addiction, en tout cas, plutôt, disons, une grande passion. Je vais dans l'exercice plutôt du chant sans parole, c'est vraiment juste l'idée de sortir du son de sa voix. À l'époque, j'ai une voix très nasillarde, mais l'idée juste même d'essayer de crier, de chuchoter, tout ça. À l'époque, j'écoute beaucoup de rock, donc je suis très inspirée par Janis, Joplin, etc. Tout plein de gens qui ont cette liberté d'expression totale qui est de faire du bruit. Et ça me fait du bien. Et donc, pendant, je dirais, au moins un an, mon seul exercice, c'est celui de je dis n'importe quoi. Je dis « wa-ba-ba-ba-ba-ba-ba », je suis au piano et je chante. Voilà.
I catch a paper boy, but things don't really change. I'm sitting in the wind, but I never way bye-bye. But
Maria Callas croyait que tous les enfants devraient avoir des enfances merveilleuses. Ce ne fut toutefois pas son cas. Dans ses mémoires, la célèbre diva écrit « Je ne me souviens pas d'un jouet, d'une poupée ou d'un jeu favori, mais des chansons que je devais répéter et répéter encore jusqu'à l'ennui. Et surtout, de la douloureuse sensation de panique qui m'envahissait quand, au beau milieu d'un passage difficile, j'avais l'impression tout à coup de suffoquer. Et je pensais, terrorisée, qu'aucun son ne sortirait de ma gorge nouée et devenue sèche. » Tom Wolfe, le réalisateur du magistral documentaire Maria by Callas.
Alors, Maria Callas, elle naît à New York de parents immigrés grecs. C'est-à-dire que ses parents quittent la Grèce alors que sa mère la porte déjà dans son ventre. Elle n'est pas une enfant désirée, sa mère a déjà une fille qu'elle adore, et elle arrive dans un environnement familial déjà d'une famille d'immigrés, mais aussi avec des parents qui n'ont pas des relations au beau fixe, et une mère qui ne l'aime pas, ce qui est un drame. Et jusqu'à ce que sa mère découvre chez sa fille un talent inné, pour le chant. Elle commence le piano, je crois, dès l'âge de 8 ans. Elle commence à chanter. Sa mère l'inscrit dans des concours de chant pour enfants prodiges, ce qui était très à la mode au début des années 30. Et donc, elle voit que sa fille a un talent, que ce talent est reconnu. Et cette relation va commencer à se construire là-dessus. Et c'est un point fondamental, parce que cette jeune enfant qu'est Maria Callas intègre dans son conscient d'enfant qu'elle est aimée quand elle chante, qu'elle est aimée quand elle fait de la musique et quand elle a du succès. Donc ça va d'un côté évidemment la pousser à le faire de plus en plus, à faire plaisir à sa mère.
Tom, comment sait-on que la mère de Maria ne l'aimait pas?
Alors, il y a beaucoup de choses qu'on raconte sur la Callas. Et moi, dans tout le travail que j'ai fait depuis plus de 10 ans, j'ai toujours fait très attention à éviter justement les « on dit que ». Et donc, il y a particulièrement une ou deux interviews où elle parle de sa mère, de sa propre voix, dans ses propres mots. Et elle dit, par exemple, en effet, qu'elle était une enfant avec un physique qu'on qualifierait d'ingrat, alors qu'elle avait une grande sœur qui était très belle. À nouveau, que sa mère adorait, alors que Callas, elle, c'était un peu le vilain petit canard. Elle lui disait, en effet, ça, je la cite, « Ne passe pas des heures devant un miroir, tu devrais plutôt aller travailler. » Elle le dit à nouveau, ça, je la cite, elle l'a privée d'une véritable enfance, d'une insouciance. Elle ne lui a pas du tout donné confiance en elle. Elle n'avait qu'une chose en tête, c'est la faire travailler, lui faire remporter des concours de chant et construire cette sorte d'objet qui servait en réalité l'ego de sa mère et qui, à travers cet enfant prodige, trouvait de la satisfaction, de la reconnaissance, de l'intérêt des autres, etc. Donc c'était une relation quand même particulièrement malsaine, toxique, on dirait, aujourd'hui.
Sagazan.
Moi, je m'aimais pas du tout, donc dès que j'avais un moyen de critiquer mon corps ou ma personne en général, je sautais dessus. Bizarrement, j'ai plus vu là où je critiquais beaucoup mon corps, beaucoup mon humour, enfin, je me trouvais nulle dans tout. La musique, j'ai tout de suite su que là où un corps, il y a un peu cette idée que tu pourras jamais le changer. Évidemment, tu peux le changer en faisant du sport, en faisant... Mais il y a un peu l'impression, bah, t'as ce sourire-là, t'auras ce sourire-là toute ta vie. La voix, j'ai tout de suite vu ça comme une possibilité de travailler et donc de la changer immense. Je ne l'ai pas du tout vu comme un truc fataliste. Ce qui est très agréable quand on est en ado, parce qu'à l'inverse, on est là pour se construire. Donc ce qui est dur, c'est les choses qu'on a et qu'on n'accepte pas et qu'on sent qu'on ne va pas pouvoir changer. Il y a aussi des choses où on a l'impression qu'on ne pourra jamais changer, alors que ça change avec le temps, évidemment. Mais la voix, pour le coup, je n'ai jamais douté que je pourrais la travailler toute ma vie. Et j'ai surtout su très vite, du fait que je pense que j'avais un papa artiste, que c'était de l'art et qu'on ne naît pas talentueux. On le devient et que le seul moyen de le devenir, c'est comme le dit si bien Jacques Brel, le talent, c'est de la sueur, donc c'est de travailler. Et donc, je crois que j'ai vu tout de suite ça comme chanter mal, mais c'était pas grave, parce que j'allais chanter bien. J'étais persuadée qu'un jour, je chanterais bien, parce que j'adorais ça et que je savais que si je passais 6 heures par jour à chanter, au bout d'un moment, je chanterais bien. Il n'y aurait pas de raison que ça n'arrive pas. Donc, je ne me suis pas beaucoup apitoyée sur mon sort là-dessus. J'ai plutôt vu ça comme un chemin fantastique à explorer pendant des années, quoi. J'ai tout de suite vu que j'avais une voix grave pour une femme. Donc, je me suis dit, ça peut être qu'intéressant, parce que là aussi, c'est très intéressant, c'est que quand on est jeune, on n'a qu'une envie, en tout cas à 13 ans, après ça change un peu, mais à 13 ans, on n'a qu'une envie, c'est de ressembler à tout le monde. Être artiste, à l'inverse, c'est sortir de la masse. Un artiste qui ressemble à celui d'avant, bon, bah, ça n'a pas d'intérêt. Et donc moi, c'était une manière de le chant de cultiver une originalité que je détestais dans le monde normal. Ma voix, je la détestais, je détestais tout dans, si je parlais juste du côté humain social. Et dans le côté artistique, pour le coup, tout ce que je détestais et que je trouvais trop original et pas assez féminin, j'en sais rien, je ne sais pas comment dire, mais séduisant en tout cas. Tout d'un coup, je savais que c'était séduisant dans la matière artistique.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs.
Vous écoutez Histoire de voix, une série des médias francophones publics.
S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux
qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Pour certains enfants, le chant vient plus aisément que la parole. En interview avec Laurent Valero, Nana Mouskouri se souvient.
J'écoutais beaucoup de la radio du matin au soir. C'était ma consolation, surtout quand dans les mauvais moments de la guerre.
Oui, et la radio, c'était une ouverture sur le monde incroyable.
Ah oui.
Nana Mouskouri, dans votre chambre d'enfant, vous commenciez à chanter toute seule
ou
vous chantiez avec votre sœur? Comment ça se passait, ça?
La première fois, je ne peux pas me souvenir comment c'était, mais je me souviens très bien mes petites années où je faisais des petites chansons toute seule, avec amour, avec de moi. J'avais attendu hier une musique. Des fois, je pleurais, des fois, je souriais. Et quand il y avait des fêtes, d'ailleurs, souvent, la famille se met à chanter après manger. Et ma maman chantait aussi beaucoup. Son regret, c'était qu'elle n'était pas devenue chanteuse. Alors, de me voir chanter, ça lui donnait un courage comme si c'était elle. Ouais. De l'autre côté, mon papa, il disait, mais qu'est-ce qu'il a, cet enfant? Alors, et un jour, il a dit à un voisin, qu'est-ce que je peux faire avec cette petite fille? Elle chante tout le temps, on dirait qu'elle est bête, elle est bête. Pourquoi vous dites bête? C'est pas du tout. Elle cherche quelque chose. Peut-être vous devez la mettre au conservatoire. Et alors, quand j'avais 11 ans, il m'a mis au conservatoire, mais ils m'ont pas accepté.
Doucement, me bouscule pas, laisse-moi prolonger l'aube et chanter n'importe quoi. Vive la vie, que c'est bon la vie.
C'est bon la vie, c'est bon la vie. La 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 la, c'est bon la vie. La 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 la, c'est bon la vie.
Tu vas voir comme c'est joli. Doup doupi, c'est bon la vie.
C'est bon la vie.
C'est bon la vie.
La 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 la.
C'est bon la vie.
La 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 la.
C'est bon la vie.
Je n'ai rien à faire et pas de rendez-vous. Je suis libre comme l'air et prête à tout. La folie serait de ne pas faire de folie. Vive la vie, que c'est bon.
L'enfance de la chanteuse américaine Aretha Franklin n'est pas conventionnelle. Très tôt, sa voix chantée s'imprègne du sacré comme du profane. Le biographe Frédéric Adrian.
C'est pas une enfance très simple, c'est pas une enfance très obligatoirement très heureuse. D'abord, sa mère décède quand elle est jeune, ses parents se séparent, puis sa mère décède quelques mois plus tard. Et puis, Aretha a son premier enfant quand elle a 12 ans, le deuxième quasiment 2 ans après. C'est une enfance très troublée. Même si elle est toujours restée très très discrète, là aussi elle n'a pas beaucoup aimé raconter ces choses-là, et même elle a fait des mémoires mais qui sont très allusives sur ces sujets-là. Elle est très vite emportée par le monde de la musique, puisque très très tôt, d'une part elle commence à chanter dans l'église, mais d'autre part, elle accompagne son père en tournée, alors qu'elle a à peine 14 ans, enfin même plus jeune que ça. Elle commence à tourner dans le pays en entier, donc elle n'a pas une enfance normale, elle n'a pas une enfance ordinaire, et je ne suis pas sûr que ça ait été une enfance très très joyeuse. Mais elle en a très peu parlé, donc c'est des hypothèses qu'on fait là-dessus. Et son père a une carrière discographique. C'est vrai que ça nous paraît toujours étonnant de se dire ce pasteur qui sort des 78 tours ou des 45 tours de sermons. Donc il est déjà en lien avec l'industrie discographique. Et c'est un entrepreneur local de Détroit qui vient enregistrer régulièrement et qui un jour décide d'enregistrer toute une cérémonie religieuse au cours de laquelle Aretha chante et qui publie, en 78 tours même à l'origine, une première chanson enregistrée par Aretha en direct depuis l'église. Donc elle doit avoir 14 ans à ce moment-là. Et ça permet de découvrir pas complètement encore sa voix. Elle n'a pas encore complètement trouvé sa façon propre de chanter. Elle est très inspirée de Clara Ward en particulier, qui est une grande chanteuse gospel. Elle est très proche de son père à l'époque. Mais on sent déjà la puissance. Faut pas anticiper les choses et dire on perçoit tout de suite ce qui va arriver après. Mais on sent déjà qu'il y a quelque chose de particulier dans son chant.
Ain't no harm no more.
C'est une voix jeune, oui, mais on sent quand même une gravité dans cette voix-là, non?
Mais elle chante depuis très longtemps. Elle a toujours chanté, dès enfant, elle a chanté. Et puis, quand elle a 14 ans, elle a déjà deux enfants. Elle a vécu un certain nombre de choses, elle a vu un certain nombre de choses. La vie sur le circuit gospel qu'elle fréquente donc depuis plusieurs années, un musicien comme Billy Preston, qu'elle a croisé à cette époque, qui est sur le même truc, il appelle ça le sex circus. Je ne sais pas si on peut dire ça à la radio, machin, etc. Mais le sex circus, c'est les témoignages des artistes gospel de cette époque-là, mais de Ray Charles aussi, d'autres musiciens, racontent combien il y avait une vie débridée dans ce domaine-là, et il est probable qu'elle ait vu, compris et entendu des choses qui n'étaient pas tout à fait de son âge. Mais cette façon de chanter, c'est une façon de chanter. Alors, je ne suis pas suffisamment technicien pour avoir l'analyse, mais la pratique des mélismes, la pratique de ce qu'on appelle les vibes aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle a pris à l'église. C'est une chanteuse d'église. D'ailleurs, quand il y a le fameux concert de 1972 à l'église où son père vient parler, une des choses qu'il raconte, c'est qu'il a été dans un commerce et qu'on lui a dit « Quand est-ce que ta fille va revenir à l'église ?» Et lui, sa réponse là-dessus, mais elle n'est jamais partie de l'église. Même quand elle chante autre chose, c'est l'église qu'elle convoque dans sa façon de chanter.
Dalida, à nouveau au micro de Jacques Chancel.
J'ai toujours aimé monter sur les planches, faire du spectacle. D'ailleurs, même chez les danseurs, à l'école, à la fin de l'année, c'est moi qui chantais, c'est moi qu'on m'est donné à lire des poèmes, à jouer de la comédie. Donc déjà, depuis toujours, j'avais envie de faire quelque chose.
Remarquez, les bonnes sœurs de la pension religieuse où vous étiez, oui. Je crois, ne seraient pas très contentes de voir les affiches qui sont vraiment sur tous les murs de Paris.
Sûrement
pas. On voit dans une certaine unité.
Oui,
je ne sais pas ce qu'en passeraient les religieuses.
Mais enfin. Sûrement pas, mais je suis ravie d'avoir brisé ce tabou.
Puritanisme.
Absolument, parce qu'il m'a poursuivi pendant longtemps. Et pendant longtemps, je n'osais même pas montrer un genou. Alors, ce qui fait que maintenant...
Mais vous êtes rattrapée, là.
Oui, oui, là, je me rattrape tout d'un coup.
Mais la petite fille regarde ces affiches-là.
Mais vous savez, la petite fille, elle est en moi, comme vous avez votre petit garçon en vous. Hein, et on ne peut pas les diviser, ils seront toujours là. Et elle est là. Et mais sûrement qu'elle a dû grandir, cette petite fille. Et puis c'est merveilleux, il faut toujours réaliser ses fantasmes, je crois. C'est la seule façon de s'en sortir, de se libérer.
Les absences, les abandons qui grugent l'enfance et laissent des marques. Des marques qu'on occulte très souvent, mais que certains comblent par le sublime. Stromae à l'émission Heptaxi avec Jérôme Collin sur la RTBF.
C'est ton papa qui était rwandais. Hein.
Voilà, exactement. Voilà.
Et ta maman ?
Ma maman est belge.
Elle est belge, hein ?
Elle est belge.
Elle habite en Flandre. Ouais.
Non, oui, oui, maintenant on habite en Flandre, mais elle a grandi à Dendermonde. Et puis elle est venue à Bruxelles en fait.
D'accord.
Elle a décidé de faire.
Parce que tu t'appelles Paul Van Haver, donc tu as le nom de ta mère.
C'est tout à fait.
Comment ça se fait ?
Parce que j'ai pas été reconnu par mon papa.
D'accord.
Mon père m'a pas reconnu. Et même si je lui en veux pas du tout, Mais c'est juste que je ne l'ai pas réellement connu. La preuve, c'est que quand j'ai appris qu'il était décédé pendant le génocide, ça m'a pas fait grand-chose. Si le fait de plus jamais, de savoir que j'allais jamais connaître ce que c'était d'avoir un père.
Tu as des souvenirs ?
Il y a une chose dont je me souviens, c'est que deux choses, c'est qu'il avait un pick-up au Rwanda. Uh-huh. J'étais hyper fier d'avoir un papa qui avait un pick-up au Rwanda, qui était architecte. Et un jour, quand il m'a dit, s'il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'il m'a fait un bisou sur la bouche quand j'étais petit. Ça m'a traumatisé. J'ai pas vraiment connu ce que c'est d'avoir un papa à la maison, donc puis il me fait un bisou sur la bouche. Et quand il a ouvert sa mallette, il avait plein de porte-mines. Il en avait genre au moins 30, des porte-mines bic, là, tu vois, multicolores. Mm-hmm. Il en avait plein, j'ai fait, waouh, ça c'est un papa. Donc voilà, c'est tout ce dont je me souviens de mon papa.
Et il est mort pendant le génocide.
Voilà, mais que j'ai pas vraiment connu. Donc c'est pour ça que j'aime pas le faire... faire mon Corneille, parce que lui, il a le droit de s'en plaindre. Et mais moi, j'ai. Enfin, tout le monde a le droit de s'en plaindre.
Corneille, qui est cet artiste français qui, lui, a vécu le génocide de l'intérieur.
Voilà.
Et l'absence du père, tu penses que ça t'a profondément marqué ou ça a été presque quelque chose de naturel? Parce que visiblement, t'en parles de manière.
Ouais, c'est bizarre, j'en ai jamais parlé comme ça, d'ailleurs.
Ah,
c'est bizarre. En général, j'occulte un petit peu. Enfin, j'occulte pas.
Enfin, si tu veux pas en parler, on ne t'en parle pas, hein, cela dit.
Pas du tout, non, j'ai pas de problème avec ça.
Et tu sais ce que ça a fondé en toi?
Ben, de me rapprocher énormément de ma mère et de le fait de me rapprocher d'une mère qui a élevé seule ses 5 enfants.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
Pour l'auteur et biologiste Boukhar Diouf, la voix de Salif Keïta est indissociable de l'histoire du célèbre chanteur malien.
C'est surtout le moteur de sa création, moi, qui m'allume, parce que Salif était quand même un des premiers de l'Afrique de l'Ouest qu'on a vu prendre de l'ampleur en Europe. Je pense que sa chanson, la raison pour laquelle ses chansons touchent les gens aussi profondément, c'est aussi son histoire de vie. Son histoire de vie, Salif est albinos. Et quand j'étais jeune, je ne suis pas de sa génération, mais un peu plus jeune, c'est les albinos, c'était la stigmatisation, c'était les moqueries, c'était les associations tacites avec la sorcellerie. Et donc, tu t'imagines un enfant comme ça, né dans une famille au Mali, comme ça, et ce qu'il doit vivre intérieurement. Et je pense que sa voix vient de là, c'est Salif, je pense. C'est. L'autre raison pour laquelle Salif, je trouve fantastique, c'est que ce n'est pas un griot. En Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup les griots qui sont reconnus être des grands chanteurs. Et donc, le griot, c'est des castes. C'est une transmission. Tes parents sont griots, puis toi, tu deviens griot. Et traditionnellement, les griots, c'était eux la chanson, c'était la généalogie aussi, savoir réciter la généalogie des gens, un peu l'histoire. Et Salif n'est pas griot. Salif, au contraire, descend d'une famille de nobles. Donc, non seulement il est albinos, mais c'est un Keïta. Les Keïta, c'est des familles de nobles qui ont dirigé les grands empires en Afrique. C'est Sundiata Keïta qui est peut-être le plus grand empereur des royaumes africains. Et donc, imagine sa famille comment il trouvait ça horrible de le voir chanter, parce que les griots ont traditionnellement été considérés comme des castes inférieures. Et je pense que c'est pour ça que sa voix est si puissante. Sa voix est habitée, ma maman disait ça. Mais je pense que c'est ça qui fait la voix des grands chanteurs. La voix est indissociable de l'histoire de vie de quelqu'un, je pense.
Salif Keita.
Être albinos en Afrique dans le temps, parce que ça a un peu changé maintenant, c'était vraiment horrible parce que les Africains ne savent pas que être albinos, c'est avoir un problème de dépigmentation. Donc, ils étaient considérés comme un diable, comme un démon, comme quelqu'un qui ne devait pas exister, ou bien qui peut servir à des sacrifices rituels. Voilà, donc, c'était détesté. En toute sincérité, c'était détesté. Et c'était pas vraiment simple de vivre avec ça. Ouais. J'avais une petite sœur qui s'appelait Aminata. Elle était albinos aussi. Généralement, c'est moi qui la dorlotais. C'est moi qui je m'occupais d'elle. Et quand je chante, vraiment, elle dort. Je faisais des chansons de berceuse et elle dort. Dès que je la prends, quand je chante, elle dort.
Et c'était quoi votre berceuse magique pour l'endormir? Est-ce que vous vous en souvenez?
Oh, barika, barika, on a tenagé. Sila ma bama, sila ma zolela, amoni. C'était une berceuse comme ça. Et quand je chante ça, elle dormait.
Et vos parents, eux, l'ont accepté comment, le fait que vous soyez albinos?
Bon, quand on a un enfant comme moi en Afrique, c'est pas fait pour l'agriculture parce que la peau est tellement fragile. Tu peux pas te baisser au soleil. Tu ne réponds pas aux critères physiques d'un cultivateur. Et chez nous, quand tu fais des enfants, c'est pour qu'ils aillent au champ, c'est pour qu'un jour, ils te remplacent au champ. C'est pourquoi mon père était vraiment... Il n'a pas tellement aimé ça. Il n'était pas... C'est pas... J'étais pas le bienvenu. J'étais vraiment pas le bienvenu. Pour moi, je prends toujours ma voix comme un sauvetage, parce que ça m'a sauvé, la voix. C'est vraiment un sauvetage parce que si je n'avais pas cette voix, je crois que la vie serait pas simple pour moi.
Ça sent fort, manger beaucoup, danser beaucoup.
Tous les enfants connaissent des deuils plus ou moins grands. Pour les jeunes garçons qui chantent, il en est un inéluctable, la mue. Le metteur en scène, Serge Denoncourt.
Évidemment, il y a des voix particulières qui m'émeuvent énormément. Moi, j'ai monté 3 fois les choristes. Les 3 fois, j'ai pas pu avoir la même distribution de petits gars parce que ces petits gars-là n'avaient plus leur voix d'enfant. Il y a quelque chose de très triste dans la nature et de très, très beau. C'est que les petits garçons qui chantent avec ces voix exceptionnelles, là où ils chantent le mieux, mais vraiment le mieux, où la voix est le plus beau, c'est à quelques mois de muet. Donc, ces voix-là, elles sont excessivement précieuses. Quand t'en as un devant toi, quand tu vas voir les choristes, tu sais que cette voix, elle va disparaître. Et quand on parle de belles voix, pour moi, c'est parmi les plus belles voix, parce que c'est des voix qui vont mourir, et que ces voix qui vont mourir, c'est comme si elles le savaient qu'elles allaient mourir. Et qu'elles nous donnent les signes de cette mort, qu'elles nous donnent ces derniers moments de beauté. Par contre, je voudrais pas être à la place de ces garçons-là. Qui, et je l'ai vécu avec eux, moi, qui vivent un deuil énorme. Énorme. Ça a dû arriver à René Simard, ça a dû arriver au jeune garçon qui a joué les choristes, Jean-Baptiste Monnier.
Jean-Baptiste Monnier, l'interprète du jeune soliste dans le film Les Choristes, se souvient de ses années de chant choral.
Il y avait comme une transmission bizarre. Ces chansons ont été chantées avant moi par d'autres enfants, pour des chansons pour des chœurs d'enfants, et en fait, comme si il y avait un fil conducteur qui nous tirait et que j'entendais aussi ceux qui avaient chanté ces chansons-là, comme si on était reliés. C'est très poétique, c'est très peut-être surnaturel dans ma tête, mais j'avais ce truc-là. C'est une sorte de flamme qu'on transmet et qu'on a envie, venez autour. J'ai un feu devant moi, venez autour et on partage ça. Et c'est ce que je ressentais quand j'étais beaucoup plus jeune, ouais. En tout cas dans le chant lyrique.
Physiquement, ça fait quoi de pouvoir atteindre ces notes-là?
Physiquement, de le souvenir, en tout cas, c'est maintenant, c'est dans le corps, c'est l'intelligence du corps aussi. Ce qui est fou, c'est que j'ai parfois des bribes, ça me rappelle des choses quand je chante. On respire avec le diaphragme, donc du coup, il y a un effort quand même physique à faire avec le corps. Et en fait, tout vibre, tout résonne, même à l'intérieur de soi. Donc c'est assez incroyable. Et c'est sur la voix de tête, surtout, que je le ressentais, c'est que tout le crâne, comme des picotements dans le crâne, quand on allait... En tout cas, moi, j'avais ce sentiment-là.
Quand on est en mesure d'atteindre ces notes-là, de chanter aussi haut, et qu'on sait qu'on va muer, est-ce qu'il y a un chronomètre qui tique dans notre tête?
Il n'y a pas forcément de chronomètre, mais en tout cas, moi, ça arrivait plus tard. Donc je commençais le lycée. J'ai mué assez tard, moi. Donc, au collège, j'étais en soprano tout le temps. Et à l'adolescence, on essaye de faire un peu les rebelles, et puis on n'écoute pas forcément ce qu'on chante. C'est-à-dire que le style de musique que j'écoutais n'était pas forcément celui que je chantais. Et que j'adorais le rock et que j'avais envie d'avoir une voix rauque, un peu tiraillée, un peu cassée. Donc il me tardait de muer aussi parfois pour dire « Ah ouais, j'étais pas là en train de « Ouais, je vais fumer des clopes pour avoir une voix plus rock » ou quoi. On l'attend pas, il n'y a pas le chronomètre, on sait que ça va arriver. Puis de toute façon, on peut rien y faire, donc de toute façon, on doit vivre avec et apprendre. Et après, s'adapter pour trouver des exercices pour essayer de gérer le truc au mieux.
Que le rêve utile de vie.
René Simard, l'enfant à la voix d'or des années 70 au Québec.
Muet, c'était pas une source d'inquiétude parce que je me suis dit que ça faisait partie de l'évolution normale d'un jeune homme. Et à ce moment-là, je suis parti à Los Angeles. Apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol, je me débrouille en espagnol aussi, et prendre des cours de danse. Pour moi, c'était une façon aussi de partir de chez moi pour ne pas entendre les mauvaises langues dire « Oh mon Dieu, je ne chante plus comme avant. Oh mon Dieu, il y a des boutons. Oh mon Dieu, les bras, ils poussent. Ah, la barbe sous le nez, la vue du ventre. » Bref, c'est sous le menton. Mais pour moi, ça a été une façon de m'immuniser, de me protéger. Et j'ai été 4 ans à Los Angeles à prendre des cours de toutes sortes. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre le métier. Et j'étais content, moi, de passer à autre chose. Vraiment content. Content que ma voix change, content d'être un jeune garçon, content de changer de coupe de cheveux. Et c'est là, à Los Angeles, que j'ai changé ma coupe de cheveux. Moi, ça m'a aidé à m'assumer parce que j'étais rendu un petit peu tanné de ces grands cheveux-là.
Serge Denoncourt.
Moi, ayant monté 3 fois les choristes, les 3 garçons qui jouaient le rôle principal, je les ai choisis, je savais qu'ils allaient muer, ils savaient qu'ils allaient muer, ils savaient que si on reprenait le spectacle 6 mois plus tard, ça serait pas eux qui allaient le chanter. Et j'ai retrouvé un de ces garçons-là en larmes, un soir, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mes notes hautes, ça commence à être difficile. Et on sait là que quand tu joues les collègues, hein, on peut les tirer là un peu. Ils s'entraînent beaucoup, mais ils savent que c'est leur dernière note haute. C'est absolument bouleversant. Ils comprennent que c'est un chant du cygne et ils ont 12 ans. Comment tu deals un chant du cygne quand t'as 12 ans?
L'acteur Jean-Baptiste Mounier.
Une fois que c'est fait, le deuil de la voix d'avant est un petit peu plus long, surtout quand on nous marque et on nous rappelle à quel point vous chantiez bien, vous chantiez bien. On l'utilise vraiment à l'imparfait et vous étiez... Donc là, le deuil, alors que je chante toujours, mais j'ai plus la même voix, j'ai la même technique, mais j'ai plus la même voix et je sens que là, ça a été compliqué. Alors que j'avais pas changé moi personnellement, ou dans ma tête, ou quoi, et que j'avais toujours envie de chanter. Mais qu'on nous ramène à ce que j'étais, à ce que je faisais avant, là, ça a été dur. Et c'est là où j'ai dit, moi, la musique, je veux plus en faire, à partir de ce moment-là, parce que ça a été une période assez longue. parce que c'était compliqué au début de s'aimer, sachant que tous les CD enregistrés, toutes les choses, c'est gravé, ça, c'est toujours là et c'est super. Mais cette période-là de deuil, en fait, le transfert entre la voix soprano et de devenir ténor, même si c'est une voix la plus haute chez les hommes, ce transfert-là est compliqué parce qu'on contrôle pas, on maîtrise pas, et on a la voix qui balle comme ça et que ça change et que c'est très désagréable pour ceux qui nous écoutent et pour nous qui essayons de parler et qui n'arrivons pas à faire les choses de façon très très simple. Donc voilà, c'est juste ça. Mais ce chronomètre, il est pour chacun de nous. De toute façon, plus on avance dans la vie, plus on a aussi nos graves qui prennent plus d'importance, ou plus à fur et à mesure on grandit, on change. Les cordes vocales ont aussi quelque chose de magique là-dessus, c'est qu'on peut ne pas les avoir utilisées pendant des années, on peut dire au niveau chant, professionnellement, mais on les a tellement travaillées petites avant qu'elles sont marquées au fer rouge et que c'est comme une réminiscence, c'est comme un souvenir, un parfum qui revient des années plus tard. Et voilà, c'est ça aussi l'intelligence du corps et de l'être humain, en fait.
Que dans l'histoire du monde, ça reste, tu sais, les eunuques, les castrats, on essaie de conserver cette voix-là. C'est barbare, je suis d'accord avec ça, mais il y a quand même une raison pour laquelle il y a peut-être des castrats, c'est qu'on essayait de préserver cette beauté. Alors qu'on avait tort, cette beauté, c'est la plus grande beauté du monde parce qu'elle est éphémère. C'est pour ça qu'elle est si belle.
C'était Histoire de voix, une série des médias francophones publics. À la narration, Anne Dorval. À la technique, Patrick Knoop. À la recherche, Marie-Christine Blais et Jean-Philippe Roux. Avec une musique originale de Joseph Marchand. Musicothécaire, Tina Gervais. Adjoint à la réalisation, Pierre-Antoine. Cette émission est signée Francis Legault.